Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma sinon rien.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour le Sine qua non du mois de décembre. Nous vous avons concocté encore un petit programme bien chargé de 11 films. Avec moi pour le commenter, Florence.
Bonjour.
Jean-Pierre.
Bonjour toutes et tous.
Et Adrien nous rejoindra en cours de route. Je vous rappelle que maintenant, vous pouvez nous écouter le deuxième mercredi du mois à midi ou en rediffusion le samedi suivant à 16h ou encore en podcast sur le site de Radio Campus. Sans plus attendre, commentons le premier film de ces dernières semaines. C'est le J'accuse de Roman Polanski.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison.
La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres.
Vous êtes désormais responsable du renseignement.
Mon colonel.
Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée.
Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres.
Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus.
Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même.
Où est le dossier secret sur Dreyfus? Désormais, je m'en chargerai personnellement.
On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi.
Peux-tu prouver tout cela?
Je voudrais éviter un scandale.
C'est déjà un scandale.
Tu devrais quitter Paris quelque temps.
Et toi?
J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola.
Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus.
Vous, non. Mais moi, si.
Demandez, Laurent, demandez.
J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle.
J'accuse le général Billon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées.
J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux.
Traître! Quand une société en est là,
assassin,
elle tombe en décomposition.
J'accuse de Roman Polanski est donc un nouveau film sur la fameuse affaire Dreyfus qui a occupé 12 années de la fin du 19e siècle. Je dis une nouvelle version cinématographique parce qu'il y en a eu déjà plusieurs. En tout cas, l'originalité de ce film de Polanski qui adapte le roman historique D de Robert Harris est de prendre le point de vue du colonel Picard, incarné par Jean Dujardin, qui est très bien, très sobre ici. C'est un militaire donc qui a commencé à avoir des doutes sur la culpabilité de Dreyfus, qui a repris le fameux bordereau et qui a mené une enquête en fait pour se rendre compte que ce n'était pas Dreyfus le coupable mais Esterhazy. Il se trouve que ce colonel Picard était à la tête du contre-espionnage français. Alors l'intérêt du film aussi de découvrir comment fonctionnait le contre-espionnage à l'époque. Et c'est vrai que pour quelqu'un d'aujourd'hui qui est habitué à faire ses petites recherches sur internet, eh bien les voir reconstituer des lettres manuscrites découpées, faire des puzzles de papier, c'est assez fascinant. Le service de contre-espionnage était vraiment très archaïque en plus, très vétuste. Donc voilà l'un des intérêts du film, cet aspect documentaire. Et puis aussi, c'est un vrai film policier, donc, puisqu'on suit toute l'enquête. C'est Louis Garrel qui interprète Dreyfus, lui aussi est très bien, très juste. Et puis, on peut mentionner Grégory Gadebois qui joue l'un des militaires véreux qui fait partie de la conspiration contre Dreyfus, ou en tout cas de ceux qui ne veulent pas entacher l'armée et qui veulent continuer à l'accuser, puisque de toute façon, l'affaire est jugée. Donc ça, c'est aussi l'autre aspect intéressant du film, voir combien ce milieu militaire était vraiment verrouillé et combien il fallait absolument éviter d'entacher la réputation de ces hommes haut placés. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé et je n'alimenterai pas la polémique concernant Roman Polanski et la question selon laquelle est-ce qu'il faut voir son film ou non, si l'homme est coupable dans la vie. Voilà, bon, moi je suis allée le voir et Jean-Pierre aussi.
Ah, tout à fait, oui, mais j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est un film vraiment très très bien fichu, où il y a une ambiance très pesante. Là, c'est, n'oublions pas que la guerre de 70, où la France a été vaincue, était encore très présente dans l'armée, quoi, dans les chez les militaires qui voulaient se refaire une image. Et puis il faut penser aussi à l'antisémitisme, ce qui était vraiment à l'époque, à la fin du 19e siècle, un antisémitisme d'État. Je peux dire tout le monde était antisémite, Picard lui-même qui l'avoue d'ailleurs. Donc c'est un film qui est loin de tout manichéisme, hein. Dreyfus lui-même, qu'on voit d'ailleurs peu dans le film, n'est pas un type très sympathique. Il est très raide dans ses bottes, il veut faire reconnaître son innocence, mais il reste dans l'armée, il est comme ça. Donc c'est un film, vraiment, il n'y a rien à reprocher à ce film, les acteurs sont excellents, effectivement. Et puis il y a cette ambiance grisâtre, ce Paris où le soleil n'a l'air de jamais se lever, qui rend compte d'une époque troublée, ou malheureuse et malfaisante en même temps. Donc voilà, quoi, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est un film historique. Il ne faut pas oublier cette partie de l'histoire qui n'est pas très favorable à la France. Donc il faut absolument y aller.
Et donc vous pouvez le voir, nous parlons de J'accuse de Roman Polanski, au Méliès, à la Nef ou au Pathé. On enchaîne avec une comédie française, c'est le deuxième film de Nicolas Bedos, La Belle Époque.
Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis.
Tu veux plus qu'on dorme ensemble ?
Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi.
Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle ?
La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme.
Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps.
Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub.
Concernant l'époque, vous avez une idée ?
Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes né à Grenoble, non ?
Mais vous me connaissez très 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 bien.
Ah, si vous saviez.
Bien. Allez, viens, laisse un peu la lumière. Et vous ?
Moi ? Moi, je vous dois tout.
Vous me devez tout ?
Tout.
Mademoiselle ?
Il y avait de la pluie, je crois.
Les secours, il n'y avait pas de pluie le premier soir.
S'en fout, venu quand même. Je vous remercie.
Je suis juste venu chercher quelques affaires.
Attends.
Vous avez mis son parfum. Tu me manques.
Vraiment ? Elle revient quand ?
Elle n'est pas censée revenir.
Ce sont des comédiens.
Margot, t'as couché avec lui, en fait.
Je veux plus, je sais, je veux plus.
Je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond.
Merde !
Putain, je parle comme une chanson.
La Belle Époque, c'est le deuxième film de Nicolas Bedos après Monsieur et Madame Adelman, qui était déjà plutôt réussi. C'est une personne que je n'aime pas bien en tant qu'acteur, Nicolas Bedos, mais qui a plutôt du talent en tant que réalisateur, je trouve. Là, il nous livre une comédie sentimentale assez originale, puisque le héros, Victor sexagénaire, incarné par Daniel Auteuil, qui est très bien là, va pouvoir revivre une journée de sa vie, vous l'avez entendu dans la bande-annonce, il choisit une journée de 1974, qui est le jour où il a rencontré sa femme, on peut le dire. Tout ça grâce à l'entreprise d'un certain Antoine, incarné par Guillaume Canet, qui permet aux gens, grâce à toute une reconstitution théâtrale, dans des décors, alors qu'ils font presque plus penser à des décors de cinéma, qui permet aux personnes donc de revivre un moment de leur vie ou de vivre carrément une autre vie que la leur à n'importe quelle époque, hein, et pourquoi pas la préhistoire ou la Révolution française ou n'importe. Donc le film m'a beaucoup plu, moi, pour cet aspect mise en abîme du cinéma, puisque Guillaume Canet joue en quelque sorte le rôle du metteur en scène à l'intérieur de ce film, où il remet en scène toute la vie du héros donc, de cette journée de 1974. Ça, c'est bien vu, ça fonctionne bien. D'autant que ça se double d'une intrigue sentimentale avec sa propre femme qui est comédienne dans son entreprise. Et puis, toute la partie justement un peu plus sentimentale est réussie aussi grâce à des comédiens qui sont tous très justes, très naturels. Doria Tillier qui joue la petite amie de Guillaume Canet. Guillaume Canet lui-même est très bien. Et puis, Auteuil et Fanny Ardant forment un couple assez détonnant aussi, donc de sexagénaires modernes, à la fois désillusionnés, mais encore amoureux. Bon, ça fonctionne. Hein. J'avoue que j'y allais avec quelques réticences et finalement, j'ai passé un très bon moment. J'en suis ressortie avec le sourire et pleinement convaincue. Florence.
Eh ben moi aussi, je te suis complètement. Donc, ça a été une bonne surprise pour moi, ce film. J'ai beaucoup aimé le scénario, déjà, avec une histoire complètement improbable. Cette espèce de jeu de rôle pour riche qui est mis en place, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Et en effet, voir cette mise en abîme dans sa propre vie, c'est assez fascinant, en fait. C'est une spirale où on ne sait plus... Enfin, si, on sait toujours où on en est, mais en fait, à quel moment s'arrête le jeu d'acteur ? Est-ce que les acteurs... font de l'impro, est-ce qu'ils parlent avec leurs propres sentiments, il y a toutes ces choses-là qui se mélangent et ça donne quelque chose d'assez profond en fait. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et puis on voit aussi, tous les rôles sont donc très travaillés en effet, on a Daniel Auteuil qui est au cœur de l'histoire, mais tous les rôles alentours sont tous également très bien présentés et très bien inscrits dans sa propre histoire. Donc ça fait quelque chose qui est très fluide, très bien ficelé. Et Fanny Ardant aussi, que j'ai trouvé bouleversante, vraiment très intense. Même si elle n'a pas le plus gros rôle dans le film, quand elle arrive, elle est tout de suite, elle crève l'écran, quoi. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film aussi que je conseille.
Et les deux hommes de cette émission l'ont boudé, même si Adrien, qui nous a rejoint entre-temps, avait envie de le voir.
Bah oui, mais vu le nombre de sorties par semaine, il est difficile de tout concilier.
Dernière semaine, certes. C'est donc La Belle Époque de Nicolas Bedos que vous pouvez encore voir au Pathé ou à la Nef. On enchaîne avec un autre film français de Sarah Succo. C'est son premier film en tant que réalisatrice, c'est Les Éblouis.
Vous faites partie de la communauté de la Colombe, c'est ça ?
Oui.
Et en quoi ça consiste exactement ?
On mène des actions sociales pour les plus démunis du quartier.
Ça le HSP, non ?
Un peu.
On propose d'être leur comptable.
Maman ?
Je m'inquiète pour maman.
Bah, tu pries pour elle ? Saint-Esprit l'aide à guérir.
T'y crois, toi ?
Ça se passe bien dans ton couvent ?
Tu connais rien à ma vie, alors ferme-la.
Mais tu vas te calmer, Mère Teresa.
Va reçoit de tes moines.
Pauvre fille.
Je vous cache pas que l'attitude violente qu'a eue votre fille, ça me préoccupe.
On va prier sur elle.
Jésus, fais que les parents ne rentrent plus jamais.
Et Mathieu ne plus puer du cul.
Tu vois pas dans quel état ils te mettent ?
Il va arrêter maintenant.
Lâche-moi, toi !
Non mais c'est quoi ce délire ? Vous êtes même pas pratiquant.
Vous êtes dans le jugement, Jean-Jacques.
Mais c'est de la vie des gosses dont il est question, merde !
C'est pas normal, Camille.
T'inquiète.
Putain, mais arrête de faire comme si tout était normal.
C'est semblant.
Je veux plus faire semblant.
Pour sortir, pour qu'on soit ensemble.
Camille, tu as fait entrer dans notre communauté la suspicion et le vice. Nous écoutons ta demande de pardon.
Non.
Les Éblouis, c'est le premier film de Sarah Succo, actrice que vous avez peut-être vue dans Discount ou dans Les Invisibles un peu plus récemment. Elle s'est inspirée de l'histoire de sa famille qui a vécu dans une communauté pendant plusieurs années, une dizaine d'années je crois. Et donc elle raconte l'histoire d'une famille. La mère est incarnée par Camille Cotin qu'on découvre dans un registre nouveau, assez sérieux là. Le père est incarné par Eric Caravaca et avec leurs trois enfants, donc ces deux personnes vont petit à petit entrer dans une secte, hein, disons-le, dont le gourou est incarné par Jean-Pierre Darroussin. On ne l'a jamais vu comme ça aussi. À chaque fois qu'il rentre dans le réfectoire, tout le monde se met à bêler. Bon, ça paraît un peu caricatural, mais apparemment, il y a vraiment des rituels comme ça de ce style, hein, dans les sectes. Le film est centré surtout sur l'adolescente, la fille aînée du couple, qui vit très mal cette entrée dans la communauté, étant donné qu'elle avait des activités, une vie à l'extérieur, et que petit à petit, tout va lui être interdit. Donc, on découvre tout de son point de vue, et c'est ça aussi qui est intéressant, puisque les parents, eux, adhérents complètement, bah, on voit bien qu'ils sont brigadés et qu'ils ne se posent pas du tout de questions. Mais le point de vue de cette petite qui garde un regard extérieur et qui se retrouve prise aussi dans un dilemme que vous découvrirez si vous allez voir le film, est vraiment très intéressant. Bon, en plus, tous les acteurs sont très bien. Alors Jean-Pierre va me dire ils font leur travail, mais ils le font bien. Et le sujet est intéressant. Il est traité presque à la manière d'un thriller, puisqu'on sent aussi une tension qui monte là au fil des jours et des années même que la famille passe dans cette communauté. C'est vraiment très, très bien. Jean-Pierre.
Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Ben, on peut dire la même chose que ce qu'on disait sur J'accuse. C'est un film qu'il faut aller voir parce qu'il traite d'un sujet évidemment très actuel. Les sectes, et que là, ce soit une secte vraiment catholique, ne peut que me réjouir parce qu'on voit la façon doucereuse d'abord et puis de plus en plus serrée, de plus en plus fliquée dont on peut mettre la main sur la famille avec le côté financier, bien sûr, parce qu'on apprend d'une seule phrase que cette fameuse famille a dû revendre son appartement pour livrer tout l'argent à la secte. Et c'est très bien fait, c'est très bien joué, effectivement, mais il faut remarquer Céleste Brunkel en Camille, qui crève l'écran, qui est une fille, je ne sais pas d'où elle vient, elle a été prise au casting sûrement, elle est vraiment magnifique, et elle sait très bien jouer de cette dualité. Elle y est, elle y est pas. Elle veut obéir à ses parents qui sont complètement embrigadés, et en même temps elle se révolte. Donc c'est un parcours très très biaisé, très 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 inquiétant, pas facile à suivre. Et donc c'est un film effrayant, mais vraiment plus effrayant que n'importe quel film gore.
On sourit parfois, voilà. Mais on sourit, on rit,
mais on sait vraiment que ça existe à de multiples exemplaires, qu'on soit catholique ou pas. Mais là encore une fois, que ça soit dans le milieu catholique donne un poids supplémentaire, voilà, puisque la France est la fille aînée de l'Église, comme on sait.
Merci Jean-Pierre, on vous recommande donc tous les deux Les Éblouis de Sarah Succo, qui passe encore au cinéma Le Club. On reste encore dans le cinéma français avec l'adaptation du roman de Leïla Slimani qui a obtenu le Goncourt en 2016. C'est Chansons douces, réalisée par Lucie Borletot.
Avec deux enfants, tout est devenu plus compliqué. J'étouffe. Je cherche une nounou.
Alors moi, je m'appelle Louise. Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un est en train de se réveiller.
Oh, vous avez Louis Fina.
Oui. Ouais, j'y vais. Myriam, vous pouvez partir tranquille.
Bisous, mes chéris.
À votre formidable famille.
Ah. Elle est super, votre nounou.
On voit qu'elle aime vos enfants.
Vous venez de plus en plus tôt.
Louise!
Oui, je dors très peu.
Louise!
Mila! Mila! Hé! Hey.
Oh, ma petite!
Tu ne t'éloignes plus jamais comme ça, c'est compris? Tu veux que quelqu'un te vole? Tu sais ce qu'un homme pourrait te faire? Eh bien, il t'emmènera. Il te gardera pour lui tout seul. Et tu auras beau crier et pleurer, personne ne viendra te chercher.
Je m'inquiète pour Mila. Elle passe plus de temps avec elle qu'avec moi. Je pense qu'il est temps qu'on s'en sépare.
Puis j'ai plus envie de m'occuper de quelqu'un d'autre, à part les enfants, hein.
Et tu vas faire comment quand ils seront plus là?
Ils seront toujours là. Ils ont confiance. Ils savent.
Chanson douce, donc, c'est l'adaptation du roman de Leïla Slimani par Lucie Borletot, à qui l'on devait, je vous le rappelle, Fidelio, l'Odyssée d'Alice, qui était très bien. Alors moi, je l'avais lu, ce roman, Chanson douce, je l'avais vraiment adoré. C'est un roman donc, qui raconte, je peux le dire, hein, qui est tiré d'un fait divers, qui raconte comment une nourrice a tué les deux enfants qu'elle gardait. Alors, c'est un fait divers américain. Hein. Ça s'est passé en 2012 à Manhattan. Et Leila Slimani s'est inspirée de cette histoire et d'une autre aussi. C'est une jeune fille au pair, toujours aux États-Unis, qui avait secoué un bébé dans la famille dans laquelle elle travaillait. Donc elle s'est inspirée de tout ça pour donner Chanson douce, qui se passe en France aujourd'hui. Où effectivement une nourrice va tuer les deux enfants qu'elle garde. Mais c'est aussi un roman qui pose beaucoup de questions sociales. Oui, alors Jean-Pierre m'en veut, parce que d'habitude c'est lui qui raconte la fin, et là je vais voler.
Juste, si je peux me permettre, c'est la première phrase du roman, le bébé est mort.
Voilà, mais bon, c'est vrai que le film ne suit pas la structure du roman, et si on n'a pas lu le roman, peut-être qu'à la rigueur, on peut effectivement avoir le suspense tout le long. Dans le roman, c'est dit dès le début. Et donc je disais que c'est un roman qui a aussi, je parle du roman toujours, qui a aussi le mérite de poser plein de questions sociales sur la famille moderne, sur le couple, sur l'insertion dans la société, puisque la mère de famille est d'origine maghrébine et qu'elle a réussi, qu'elle est avocate, qu'elle veut travailler, qu'elle veut être reconnue. Voilà pourquoi ils prennent une nounou, qu'ils embauchent un sacré nombre d'heures pour pouvoir tous les deux dans le couple se consacrer à leur travail. On sent vraiment dans le roman et dans le film ce qui se noue entre la nourrice et le couple, qui deviennent forcément très proches, hein. C'est une relation qui rapproche évidemment autour des enfants, au point que le couple emmène la nounou en vacances et qu'elle se trouve très frustrée et très même haineuse, on peut le dire, le jour où elle commence à comprendre qu'elle ne reste quand même que l'employée et qu'il y a une barrière entre eux, une barrière sociale, une barrière aussi employé-employeur. Donc ça, on le retrouve dans le film. Le film accentuant quand même un petit peu plus le côté thriller avec cette nounou qu'on voit sans cesse avec les enfants, dont on sent un petit peu la bizarrerie au fil du film. Il y a une tension sourde pendant tout le film jusqu'à l'horreur finale. Moi, j'ai trouvé que c'était réussi. J'ai trouvé que Karine Viard incarnait bien cette femme de la nourrice, hein, tout en contraste. Leila Bekhti et Antoine Reinhardt sont pas mal aussi dans le rôle du couple de parents. Donc pour moi, c'est une adaptation relativement fidèle, relativement réussie, même si elle coupe des choses du roman, mais ça c'est fatal quand on adapte au cinéma. Allez Jean-Pierre,
ben, je
à
sais
toi.
Pas quoi dire, j'ai l'impression que tu as tellement aimé le roman que forcément tu as aimé le film. Alors moi qui ai pas lu le roman, et j'en suis très heureux, j'ai vu un film qui a aucun intérêt, où il y a aucun suspense, moi je vois pas. On voit cette nounou avec les bébés, avec le bébé particulièrement, parce qu'il y a aussi une petite fille de 5 ans. Le bébé qui pleure, le bébé qui rit, on lui change des couches, puis le jour d'après c'est le bébé qui pleure, le bébé qui rit, on lui change les couches. Ben ouais, et ça dure 1h30. On voit pas de suspense, on voit pas de transformation psychologique chez cette nounou, qui est un peu bizarre, mais qui a l'air d'aimer sincèrement ses enfants. Il y a qu'à voir la séquence où elle s'est endormie, elle perd la petite fille, elle s'affole complètement, elle court dans tout le parc. Bref. Moi, j'ai pas vu de suspense. Et puis, la fin arrive 10 minutes avant la fin. Elle va dans son placard, elle sort un petit couteau, comme s'il y en avait pas chez les parents des enfants. Et voilà. Et alors, il a fallu que je m'accroche au fauteuil pour pas partir, tellement je me suis emmerdé.
Écoutez, tout est dit, à vous de vous faire votre idée. Et si vous voulez découvrir Chanson douce de Lucie Borloteau, vous pouvez aller au club ou au pâté.
Prenez un sandwich quand même.
Le film suivant nous réunira, Jean-Pierre et moi. Nous l'avons vu ensemble et tous les deux appréciés. C'est le nouveau film d'Elia Souleymane, It Must Be Heaven.
لا 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 لا
It Must Be Heaven de l'Israélien, ou plutôt du Palestinien, puisque lui se revendique d'origine palestinienne, Elia Souleiman, qui a obtenu une mention spéciale du jury au dernier Festival de Cannes. Je vous rappelle qu'il a vu le prix du jury, d'ailleurs, au Festival de Cannes, avec Intervention Divine, c'était en 2002. It Must Be Heaven est un genre de film à sketch, on pourrait dire, avec tout de même un fil conducteur, qui est déjà lui-même, Elia Souleiman, hein, qui joue son propre rôle dans le film, un petit peu à la manière d'un Jacques Tati, muet, ou quasi muet. Je crois bien que les seuls mots qu'il prononce dans le film, c'est Nazareth Palestine, pour dire d'où il est originaire, un chauffeur de taxi new-yorkais. Donc au début, on se dit, bon, ok, les sketchs s'enchaînent, on va se lasser. Et puis, finalement, non. Parce que finalement, il y a vraiment des thématiques qui reviennent et que le film est très bien construit. On démarre chez lui et puis il y a quelques séquences à Paris, quelques séquences à New York et on revient chez lui à la fin. L'idée étant de montrer qu'un peu partout, finalement, on rencontre des absurdités, de la violence, et des problèmes de divers types. J'ai vraiment finalement beaucoup aimé ce film. Les sketchs m'ont fait de plus en plus sourire, voire rire. J'en ai trouvé certains, comme celui des États-Unis au moment où il fait ses courses dans une petite supérette et où il se rend compte que chacun a son arme en bandoulière à la manière d'un sac à main, alors de manière tout à fait naturelle. Voilà, c'est une des séquences qui m'a beaucoup marquée. Et il y en a plein de ce type, hein, avec ou de l'absurdité assez poétique ou vraiment un message un peu plus fort comme celui-ci, un message un peu plus politique. C'est réussi et je le recommande et je sais que Jean-Pierre le fera aussi.
Ah ben oui, tout à fait, même si effectivement on peut avoir une certaine difficulté à y rentrer parce qu'on ne sait pas où il veut aller. Mais ce film tient surtout à ce personnage avec son chapeau vissé sur le crâne, ses lunettes, joué par Elia Souleiman lui-même, effectivement, qui est totalement impassible. Moi, j'ai pensé à Buster Keaton au moins autant qu'à Jacques Tati et même à Pierre Etex pour certains gags. Et il porte ce film à bout de bras, si on peut dire, avec quand même le message que la Palestine, c'est comme la Pologne jadis, c'est un pays qui n'existe pas, quoi. Il essaye de tourner son film, il se fait balader par un producteur français qui est effectivement joué par un producteur réel, dont j'ai oublié le nom, qui lui dit « Ah oui, mais la Palestine, oh, mais on est pour, c'est un pays magnifique, mais votre film, ça pourrait se passer n'importe où, alors bon, mais finalement, on ne le fera pas. » Et il a la même chose à New York, où on l'ignore totalement, où il rencontre Gaël Garcia Bernal, qui lui aussi veut tourner un film sur Cortés, mais alors les Espagnols parleraient américain, alors il ne veut pas le faire non plus. Bref, c'est vraiment une réflexion sur le cinéma qui passe comme ça en douceur avec, encore une fois, ce personnage assez extraordinaire qui ne dit pas un mot, sauf deux, effectivement, pour dire d'où il vient, et puis qui retourne chez lui. L'acteur Souleiman n'a pas fait son film, mais le réalisateur Souleiman a fait un film qui est très drôle, qui est magnifique et qu'il ne faut pas manquer.
Eh bien, nous vous le recommandons donc tous les deux, It Must Be Heaven d'Elia Souleiman, que vous pouvez voir au cinéma Le Club. Nous passons maintenant à un film d'animation, c'est J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin et l'adaptation du roman Happy Hand de Guillaume Laurent, j'insiste pour le jeu de mots, hein, la main joyeuse, pourrait-on traduire, puisque c'est effectivement l'histoire d'une main qui a été coupée de son corps et qui va vivre tout un périple pour retrouver son corps. Tout est filmé à hauteur de main, c'est l'une des originalités de ce film d'animation. Et la main vit vraiment des aventures et a des attitudes comme pourrait avoir un corps entier. Alors vous me direz, c'est un petit peu léger, mais ce n'est pas le seul propos du film. En parallèle, par flashback, on découvre la vie de la personne à qui appartient cette main, qui est une vie assez intéressante d'un jeune homme marocain qui a perdu ses parents assez jeune. Non, je me trompe, s'il est marocain.
Non, mais il ne faut pas le dire.
Ah oui, mais on le comprend dès le début, non?
Bah moi,
non,
j'avais pas
compris. Décidément, ça fait deux fois que je joue le rôle de Jean-Pierre et que je vous raconte la fin d'un film. Ah, pour moi, c'était évident dès le début, donc je voyais pas trop le problème. Excusez-moi. En tout cas, l'intérêt de ce film réside
désolé,
vraiment quoi. Dans son graphisme, qui est vraiment superbe. Vraiment, moi, il m'a éblouie tout le long. Dans l'histoire aussi, dans la bande-son, c'est Dan Levy du groupe The Do qui a fait la musique du film. D'ailleurs, vous avez entendu là, la bande-annonce qui était essentiellement musicale. Donc moi, c'est un film que je recommande vivement, qui est peut-être mon coup de cœur du mois. Adrien.
Ah ben moi, c'est pas mon coup de cœur du mois, c'est le coup de cœur de l'année. J'ai vraiment adoré ce film. C'est un film. Je trouve il y a mes deux genres préférés du cinéma français qui sont dedans, à savoir une petite partie horreur fantastique avec la main qui se balade et même la première scène dans le laboratoire fait penser à un film de Cronenberg avec les yeux et tout. C'est très glauque. Et toute une partie film sentimental de chambre à la française, un peu à la Romère, avec du marivaudage, un personnage masculin, un personnage féminin qui se court après, avec un personnage de bibliothécaire et un personnage de menuisier. Et du coup, c'est très très intéressant. Le soin apporté au décor est assez beau, quoi. Enfin, on aimerait mettre pause sur chaque image pour regarder tous les détails graphiques du film, parce qu'il y a plein de détails, jusqu'aux petits post-it posés, écrits, aux affiches, de la manière dont sont décorées les chambres des personnages. Il y a la musique additionnelle aussi, beaucoup axée sur le rap aussi, qui est très très intéressante. Et puis c'est un personnage qui fait de la radio, et comme c'est notre média préféré, enfin le personnage enfant enregistre des sons et ces sons vont avoir une importance plus tard. C'est moi, ça m'a bouleversé comme film, je suis ressorti tout tremblant. Et voilà, j'invite tout le monde à aller le voir parce que
l'animation
française est merveilleuse et en plus ça a été animé dans la région, du coup c'est hyper chouette.
Voilà, j'ai perdu mon corps, donc passe encore au Méliès et au Pâté. Jean-Pierre, tu le recommandes aussi ?
Ah, je le recommande aussi, oui, ça fait partie de l'animation française qui est excellente, on a tendance à l'oublier par rapport à l'animation américaine, mais qui vient de Paul Grimaud, qui est passé par René Laloux, qui est passé par Jean-François Laguioni, où il y a un film d'ailleurs de lui cette semaine, Le Voyage du Prince, mais qui est malheureusement pas terrible. Et là, on retrouve effectivement cette poésie à la Prévert, cette manière de mettre en scène un Paris un petit peu hors du temps, avec des petites gens comme ça. Moi, ça m'a fait penser aussi aux Mains d'Orlac, hein, quand même, puisqu'il y a un côté fantastique, ou même voir à l'homme qui rétrécit, puisque quand on filme cette main, les gens autour de la main sont des géants. Donc il y a des tas de directions comme ça qu'on peut apprécier et qu'on peut aborder. C'est vraiment un très très beau film. Je ne dis pas que c'est peut-être le film de l'année, mais en animation française, c'est sûrement un des meilleurs, et il y en a beaucoup qui sont parmi les meilleurs.
Eh bien, c'est dit, nous vous le recommandons tous. J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, que vous pouvez voir au Méliès ou au Pâté. On enchaîne avec un vrai film d'horreur cette fois. C'est le film de Johannes Nyholm, je ne sais pas comment le prononcer, qui s'intitule Cocody Cocoda. Allemandsrätter. Cocody Cocoda, film d'horreur. C'est vrai que le titre n'évoquerait pas un film d'horreur, mais danois et suédois de Johannes Nyholm raconte les problèmes d'un couple, Tobias et Elin, ou plutôt raconte, non pas les problèmes du couple avant, mais plutôt après, une fois qu'ils sont partis camper dans les bois, tous les deux au cœur de la forêt pour se retrouver en amoureux. Au cœur de ces bois vont apparaître des fantômes de leur passé. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour un film d'horreur, hein. Le fin fond des bois, les fantômes, Adrien.
Le film commence en fait comme un film à la Haneke, avec une famille suédoise parfaite, le père, la mère, la fille, en végélature au bord de la plage, et un événement horrible et tragique va survenir, et la première partie, les 25 premières minutes sont vraiment fabuleuses. Il y a notamment une scène dans une chambre d'hôpital, un anniversaire fêté dans une chambre d'hôpital très très bien réalisée, très malaisant. Bref, on a envie de sortir de la salle. Et puis le film coupe, il y a un petit film d'animation animé en ombre chinoise assez impressionnant. Et après, le film va devenir une série de tableaux répétés à l'infini comme une boîte de vaches qui rit. Et il va y avoir la même scène avec d'infimes variations, la même scène dans le camping. Et du coup, on a vraiment l'impression d'être devant une œuvre d'art contemporain. Moi, j'aurais bien vu ce film au musée, en fait, parce que le réalisateur compose très bien ses plans. Et en fait, des personnages d'une boîte à musique vont prendre vie et vont devenir réels. Et ça ressemble un peu à Broken Flower comme film dans la manière dont c'est construit, de voir la même scène plusieurs fois, mais avec des petites variations. Donc c'est assez intéressant, c'est très intellectuel comme film d'horreur, je dirais. J'ai pas eu peur, hein, mais c'est vraiment très psychanalytique aussi. C'est plus l'horreur au sein du couple qu'un film d'horreur où tu sursautes, où il va y avoir des jumpscares et tout ça, mais c'est très beau et la fin est assez étonnante, on va dire. Il y a plusieurs fins aussi. Le réalisateur fait confiance au spectateur et fait confiance à son intelligence. Donc j'en avais un peu marre des répétitions quand même à un moment donné. Mais j'ai vite compris comment ça fonctionnait. J'ai vite compris l'astuce, mais plastiquement, c'est merveilleux, quoi. C'est assez beau.
Jean-Pierre, es-tu d'accord ?
Ah, je suis d'accord, mais je suis encore plus enthousiaste. Je suis enthousiaste sur ce film qui est un cauchemar enchaîné, quoi. Et ça fait vraiment partie, parce que moi, il m'arrive de faire des cauchemars et de rêver assez souvent. Et là, c'est ça, qu'on rentre dans un bois, il se passe des choses, et puis le personnage principal se réveille, on se dit « bon, ben ça va, il a rêvé ». Et puis, ce qui arrive après rejoint ce qui est arrivé avant, et comme ça, 3, 4, 5 fois de suite. Et donc, on est vraiment pris comme ça dans cette boucle dont on a l'impression qu'elle se terminera jamais. En fait, elle se termine parce qu'il y a une espèce de flashback qui explique.
Ah, merci Jean-Pierre, on va tout savoir.
Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est très bien foutu, c'est très bien monté, parce qu'effectivement, les personnages qui assaillent ce couple innocent sont des personnages qu'on trouve sur une boîte à musique. Et quand on fait tourner la boîte à musique, il y a le Cocody Cocoda, qui est une chanson qui est traduite dans le monde entier. C'est le coq est mort, le coq est mort. Ouais. Voilà. Et il y a cette espèce d'humour noir comme ça qui sous-tend tout le film. Et moi, j'ai vraiment été, je dis pas que j'ai été effrayé, mais il y a un malaise qui s'installe et qui vous emplâtre, quoi, et dont il est très difficile de sortir. Donc, faut y aller. Mais je crois qu'il
passe
plus.
Vous m'avez intrigué. Il ne passe plus pour le moment. Après, à guetter dans les cinémas de l'agglomération grenobloise, puisque en général, il y a des petits cinémas qui reprogramment. C'est Cocody Cocoda de Johannes Nyholm. On enchaîne avec le film français de Ladjili qui a fait beaucoup de bruit, qui s'intitule Les Misérables.
J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul.
T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote.
Contrôle de police, vous faites quoi, là ?
On attend le bus.
Vous attendez le bus, là ? Ça sent le shit, ça ?
Eh, c'est bon, Sumi.
Ça va, je gère.
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
T'es contente, là ?
Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Eh hey, les gars, soleil.
Ceux qui te respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
C'est quoi l'histoire ? Quand t'as volé un lion ?
Ouais.
Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là !
Vous n'éviterez pas la colère et les cris.
Putain !
La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé.
Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone ? Là, il y a un gamin inconscient, là.
C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo, si on veut.
C'est quoi votre problème, hein ? C'est quoi votre putain de problème, là ? C'est moi, la loi !
Donc t'es en train de m'expliquer quoi, là ? C'est un accident ?
Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure.
C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui.
Tu vas trop loin, là !
T'auras jamais l'esprit BAC, toi.
Parce que je joue pas au cow-boy.
Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous.
Les Misérables, le film de Led Gilly, que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait partie du collectif Courtragemé qui avait été fondé par Kim Chapiron en 1994. Les Misérables, donc, a obtenu le prix du jury à Cannes cette année. C'est un film qui a beaucoup fait parler, alors qui n'est pas une adaptation du roman de Victor Hugo, même s'il y a un ou deux petits clins d'œil à Victor Hugo et dans le titre et dans le film, mais qui est un, ce qu'on pourrait appeler un film de banlieue. Hein, c'est presque devenu un genre à part entière. Il y en a eu pas mal dernièrement et des plutôt réussis, je trouve, comme Chouf, par exemple. Moi, j'avais bien aimé Divine aussi, ou encore Dipan. Alors, évidemment, la référence dans le genre, c'est La Haine de Kassovitz. Alors, je pense pas que Les Misérables soient au niveau de La Haine, mais moi, c'est un film que j'ai aimé, qui filme la banlieue d'une très belle manière. Alors, belle, là, je parle vraiment de la technique, des mouvements de caméra. Il y a des plans filmés de grues ou d'avions, je ne sais pas trop d'ailleurs, où on voit vraiment cette poubelle à grande échelle que peut être une cité très défavorisée comme celle de Montfermeil, hein, dans le 9-3. Et puis on suit, c'est aussi un film policier, nerveux, tendu, puisqu'on suit une brigade de la BAC qui passe 24 heures dans la cité à rechercher certains dealers, à essayer d'obtenir des infos à droite à gauche, à en traquer certains. Cette intrigue se double aussi d'une petite intrigue avec un lion qui a été volé à des gitans. Enfin bref, je vous en dis pas plus, mais il se passe plein de choses en 24 heures et on peut assez facilement imaginer que c'est vraiment le cas dans ce genre de quartier. Bon, il y a un petit peu de manichéisme peut-être, ou pas de manichéisme, mais du moins de personnages un peu stéréotypés. Il y a forcément le flic un peu facho, le dealer de quartier, etc. Mais l'habileté du film est de montrer vraiment de nombreux personnages et que justement ce soit pas si manichéen finalement, parce que tout n'est pas noir parmi les dealers de banlieue et tout n'est pas blanc parmi les flics. Tout est un peu plus nuancé que ça, et moi j'ai trouvé que c'était du coup une réussite. Jean-Pierre.
Oh ben c'est certainement une réussite qui étonne pas, parce qu'effectivement ça, il faut le placer dans le cadre du film de banlieue, comme tu l'as très bien dit. Ce qui est le plus remarquable, c'est effectivement son réalisme qui est quasiment documentaire. Le film pourrait être d'ailleurs presque un documentaire où on suivrait ces trois flics de la BAC. Là, mais là, Lajli a tourné son film à Montfermeil, d'où il est originaire, où je crois qu'il habite encore.
Oui.
Donc ça a été assez facile pour lui de rester crédible et puis de faire apparaître tous ces petits truands, ces petits gars qui ne savent pas quoi faire de leur peau, qui vendent de la drogue, etc. J'ai pas trouvé ça d'une originalité folle. Alors effectivement, on le voit avec plaisir. C'est très bien filmé, effectivement, comme tu l'as dit toi-même, avec ces très longs travelling qui suivent les barres d'immeubles comme ça, avec des plongées assez fantastique. Donc oui, il faut le voir. Encore une fois, pour moi, c'est malgré tout pas un grand film.
Adrien ?
Ah ben moi, je suis plus enthousiaste que vous quand même. Bah déjà, moi, je suis pas très objectif. Parce
moi,
que
je suis très enthousiaste. Hein.
Ah bon, ça oui. Va alors. Mais c'est Jean-Pierre, il est un peu...
Non,
mais
il y a mis un petit bémol.
Un petit bémol, mais moi, déjà, pour moi, Courtragemé, c'est vraiment un des mouvements les plus importants qui est apparu dans les années 90, quand on voit ce que les gens de Courtragemé font aujourd'hui, quand on voit ce que fait JR, quand on voit ce que fait Lajli, quand on voit ce que fait Romain Gavras et Kim Chapiron, ça fait vraiment plaisir de voir que ces gens-là réussissent aujourd'hui à devenir dans l'institution. Et aussi, ça m'a fait réévaluer Visage Villas d'Agnès Varda, parce que j'avais pas capté que JR faisait partie de Courtragemé. Et je pense que Agnès Varda les a aidés quand ils étaient jeunes, vu que Chris Marker les aidait et que Agnès Varda et Chris Marker étaient copains. Bref, voilà, du coup, moi ça me plaît beaucoup ce mouvement. D'ailleurs, je vous invite à regarder les courts-métrages et les clips de Courtragemé sur YouTube. On peut les voir comme on veut, c'est assez rigolo. On voit Vincent Cassel jeune et tout ça, c'est notamment la barbichette qui est très drôle. Et là, le film film de Ledger, ce qui m'a beaucoup plu, moi, c'est que j'avais pas aimé son documentaire à voix haute parce que c'était trop bavard et c'était très scolaire et ça faisait très documentaire France 2. Et là, justement, rien ne passe par la parole. Tout est dans le mouvement, tout est dans l'action et c'est un véritable polar d'action. Alors, je vois des gauchos sur mon fil Facebook qui dit « Tous les Noirs et les Arabes du film sont des méchants, mais en même temps, c'est un polar. Va pas voir un polar si tu veux pas voir des personnages méchants et quelle image ça va donner de la banlieue, ce film. »
Mais en même temps, c'est pas forcément le cas parce qu'il y a ce médiateur en quelque sorte qui tient le bar là, qui oui. est un type du quartier et qui essaye de raisonner les jeunes.
En plus, c'est quand même un islamiste, hein, mais bon, oui. Bref.
Bah oui, oui, mais bon. Justement, il montre toute l'ambiguïté entre les dealers, ouais. les islamistes et la police et comment cette tension tient et les petits voyous. Et c'est assez, c'est vraiment intéressant. Et puis il y a une petite phrase sur le clientélisme avec les jeunes qui font des services civiques, mais en fait qui font rien. Bref, c'est assez complexe comme film, mais plus complexe qu'il n'y paraît. Ça m'a vraiment bouleversé. Et Damien Bonnard est vraiment un acteur sublime, quoi. Je l'adore, je l'aime.
Il fait son boulot, quoi, en quelque sorte.
Oui, bien. Mais...
Merci, oui, Adrien. Et
oui,
merci,
mais son corps.
Les Misérables, donc, de Ledger Lee, est encore programmé à la Nef et au Pathé. On enchaîne avec le nouveau film de Robert Guédiguian, Gloria Mundi.
Doucement les oreilles.
Tiens, chérie, ça porte bonheur.
Sur les poches, ça attire l'argent.
Gloria, ça vient d'où?
D'un film qu'on avait vu à la télé.
C'est très joli.
J'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'il faut lui dire qu'il est grand-père. Si tu le fais pas, tu le regretteras.
T'as peut-être raison.
Je crois que ça va me faire plaisir de la voir, cette petite Gloria. Richard m'a dit qu'elle avait mes yeux.
Oui, c'est vrai. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'ils se connaissent, sans plus.
Il a tué des gens?
Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait.
C'est un joli prénom, ça, Gloria. Et toi, tu travailles, Mathilda?
3 mois, je suis à l'essai. Puis après, je me ferai virer, comme d'hab.
Vous êtes libre?
Ah, je suis pas un taxi, monsieur.
Ah, je suis comme vous, faut que je bouffe, bordel!
Ah, on va vous prendre à la petite, comme ça vous aurez pas la nourrice à payer.
Vous pourriez faire un geste pour ta sœur, non?
Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants, nous? Parce qu'on veut réussir.
Pensez qu'à vous.
On a même pas de quoi se payer une nourrice, Nico. Voilà, on est des moins que rien.
J'aime bien me promener avec elle. Je lui raconte de belles histoires, les histoires que je t'ai pas racontées.
Tu vas rentrer chez toi avec Nicolas, hein? Et dîner en amoureux. Pas se laisser avoir par toute cette merde de notre époque.
Mais le plus important, c'est s'entraider. Puis si entre nous, on ne se tient pas les coudes, tout disparaît.
Pas vrai, Gloria?
Marseille, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Mélan, vous l'avez deviné, on est chez Robert Guédiguian. En même temps, on ne va pas lui reprocher de faire toujours le même film parce que ce n'est pas le cas. Gloria Mundi, c'est son 21e film, si j'ai bien compté, raconte donc une histoire de famille. Il se trouve que la petite Gloria va naître et que ça va bouleverser les rapports familiaux, puisqu'en même temps, son grand-père sort de prison. Donc son grand-père, c'est le père de sa mère, que sa mère a peu connu, puisqu'il est en prison depuis sa naissance ou presque. Il va ressurgir dans la famille, donc c'est Gérard Mélan qui est très bien, qui l'incarne. Et on suit donc tous les petits problèmes de cette famille, dont la mère est incarnée par Ariane Ascaride, la fille qui fait naître la petite Gloria, donc par Anaïs de Moustier. Le beau-père, c'est Jean-Pierre Darroussin. Et donc autour d'eux, Robinson Stévenin, Grégoire le Prince Ringuet. Alors moi, j'aime beaucoup toute l'ancienne génération, toute la bande de Guédiguian. Je les trouve tous très justes et touchants. J'aime beaucoup moins la nouvelle génération. Je trouve que quand c'est des scènes qui sont centrées sur eux, ça sonne faux. Après, bon, c'est un film qui est vraiment intéressant, comme toujours chez Guédiguian, pour le côté revendication sociale. On est chez des gens modestes, qui galèrent, qui, dès qu'ils ont un arrêt maladie, ont du mal à continuer à joindre les deux bouts, parce qu'en l'occurrence, là, le père de la petite Gloria est Uber, donc le jour où il se fait casser la figure et ne peut plus conduire son taxi, il n'a pas d'assurance et plus de rentrée d'argent. On suit aussi un mouvement de grève parmi les employés de ménage d'une entreprise dont fait partie la mère, Ariane Ascaride, donc, qui l'incarne. J'aime bien tout ce côté-là. Après, pour toute l'intrigue familiale, les petites jalousies, les trahisons et plus, mais je ne raconterai pas tout, je trouve que ça sonne pas toujours juste. Donc c'est voilà un film qui m'a plu mais sur lequel j'ai des réserves. Allez, à qui je laisse la parole? Adrien?
Oui, ben moi je suis pas très objectif avec Robert Guédiguian, du coup j'ai vraiment adoré ce film. En fait, ce qui m'a beaucoup plu dans le fait que les acteurs ne jouent pas réaliste, parce que pour moi ils jouent pas faux, mais ils jouent pas réaliste, c'est qu'ils ne s'embarrassent plus de... En fait, de coller à la réalité, quoi. C'est vraiment onirique au possible. La scène de l'accouchement, on dirait vraiment une scène comme un tableau, comme si c'était Jésus qui naissait, quoi. Il y a quelque chose. Il avait fait un film comme ça, Mon père est ingénieur, où il reprenait la crèche aussi. Et là, il y a un petit comme ça. Mais par exemple, il y a des scènes où Ariane Ascaride rentre de son travail, où elle est filmée dans la rue comme ça, un peu comme une vierge, quoi. C'est assez sublime. Et puis aussi, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un film qui est pas du tout manichéen, en fait. J'aurais jamais cru voir dans un film de Guédiguian, Ariane Ascaride incarner une briseuse de grève parce qu'elle ne veut pas faire la grève, et du coup ce n'est pas du militantisme bête et méchant avec les anti-ouvriers d'un côté, et même les gens sont plutôt les gens sont plutôt macronistes, et il a vraiment de la compassion pour tous les personnages, même pour le personnage de Grégoire le Prince Ringuet, qu'on peut
aussi
comprendre en fait, même si c'est un salaud, mais des gens comme ça, ça existe. Et du coup, j'ai beaucoup aimé la manière dont tout s'articulait, dont il parlait des vidéos sur les réseaux sociaux, dont il parlait de la sexualité, de la misère financière des gens, et surtout Gérard Mélan et Jean-Pierre Darroussin dans leur voyage en bus. Quand ils discutent ensemble, c'est comme s'ils regardaient toute la filmographie qu'ils ont fait avec Guédiguian depuis les années 80. Et ça m'a bouleversé. Bref, j'ai eu des frissons pendant tout ce film, et même le ralenti à la fin, que je sais qu'on lui a beaucoup reproché, moi, m'a beaucoup plu. Et le twist final, c'est merveilleux. J'avais l'impression de voir Mystic River à Marseille, en fait.
Un peu
Guédiguian qui faisait son Clint Eastwood. Mais oui, mais c'est basé sur les mêmes choses, en fait, sur des intrigues familiales, des choses qu'on ne se dit pas. Bref, je suis très enchanté par ce film.
Et Jean-Pierre aussi. Oui, et Jean-Pierre vous révélera le twist final.
Non, mais il n'y a pas de twist final, vraiment. Je trouve que c'est un film très, très réussi, surprenant chez Guédiguian, parce qu'effectivement, il prend l'envers du militantisme qu'on pourrait lui prêter. Hein.
Oui.
C'est des petites gens comme ça, qui sont ni bons ni méchants, ils essayent de s'en sortir. Il y a la briseuse de grève, il y a Aurore qui travaille pour 3 mois dans une boutique de vêtements où elle sait qu'elle va se faire foutre dehors. Et il y a une phrase d'Ariane Ascaride qui dit « Nous sommes des moins que rien ». Je trouve que ça ferait un titre formidable pour le film, Les Moins que Rien, et Plus que les Misérables. Je trouve que ça rend très bien compte de la France d'aujourd'hui, parce que la France d'aujourd'hui, c'est pas que les banlieues avec les dealers, etc.
Ouais.
Là, c'est des gens vraiment sans aucun manichéisme qui, encore une fois, essayent de s'en sortir. Il y en a certains qui sont un petit peu plus salauds que d'autres, mais peu importe, ils sont là, c'est des gens prodigieusement vivants. J'ai cité Prévert pour le « J'ai perdu mon corps », mais on pourrait aussi citer Prévert pour celui-là, avec toutes ces personnes admirablement interprétées, effectivement, avec des petites notes de poésie, comme Mélan qui compose des haïkus en prison,
en
et puis après, en sortant de prison, et puis il va y retourner, mais il faut pas le dire peut-être, parce qu'il y a une fin qui est sereinement terrible, je la dirai pas, mais ça vaut
bon,
vraiment
ça va,
la
vous
peine,
ne connaissez
quoi,
la fin voilà. Que de l'un des personnages.
Voilà.
Il y a aussi une phrase que Robinson Stevenin dit, c'est « J'aurais préféré qu'il casse ma voiture, qu'il me casse le bras, on en est là en fait, à préférer avoir... » le matériel que sa propre santé. Et ça, c'est très chouette, par des petites lignes de dialogue, c'est un grand film.
Eh bien, écoutez, je ne fais pas le poids face à vous deux, mais je n'étais pas totalement négatif sur ce film. C'est Gloria Mundi de Robert Guédiguian qui passe au club et au pâté. On va terminer ce programme chargé avec un film américain, franco-allemand, d'Alice Vinocourt, qui s'intitule Proxima.
5, 4, 3... 2, 1.
I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are making last preparations for the long journey.
T'éteins pas la lumière.
Aïe, aïe, Captain.
Tu savais que ta maman allait partir un jour. Ça te fait très peur, un peu peur.
Un peu peur.
Совсем немного женщин работало здесь. Ты можешь гордиться собой.
I think you ought to ask him to lighten your load.
What do you know about my core skills?
T'es là? Ça va pas, non, tu m'as fait peur.
Pars!
It's
no such thing as a perfect astronaut. Just like there's no such thing as a perfect mother.
C'est demain soir que tu pars. Maman, tu me manques.
Proxima d'Alice Vinocourt s'intéresse à une femme astronaute française qui s'apprête à quitter la Terre pour une mission d'un an, qui s'appelle Proxima donc. On suit son entraînement et aussi sa préparation à la séparation avec sa fille qui n'a que 8 ans et qu'elle va donc devoir quitter une année complète. C'est Eva Green qui incarne l'héroïne et je laisserai Jean-Pierre et Adrien se disputer sur ce film. Jean-Pierre, ou pas
d'ailleurs. Oui, je veux bien en parler. C'est un film documentaire, effectivement, très très réaliste, puisque ça a été tourné sur place. Hein,
effectivement. C'est une fiction.
C'est une fiction, mais oui. C'est une fiction réaliste, encore une D'accord. fois, documentaire, encore une fois, parce que tout ce que traverse cette femme, Eva Green, l'entraînement, etc., les plongées dans une cuve remplie d'eau pour simuler la pesanteur, etc. Et alors, il y a deux originalités dans ce film, c'est qu'effectivement, c'est une femme et pas un homme qui s'entraîne, alors qu'en général, c'est des hommes. Et puis, elle a une petite fille de 8-9 ans, avec qui les rapports sont un peu tendus, parce que cette petite fille sait que sa mère va partir pour un an. Là encore, moi, le scientifique en moi s'insurge, parce que pour aller sur Mars, il faut 6 mois pour y aller, on y reste 6 mois, et 6 mois pour revenir, ça fait plutôt 18 mois. Mais bon, peu importe, je cherche la petite bête, là. Mais à part ce documentaire qui est très bien fait, à part ce portrait psychologique de la mère et sa fille qui est très bien fait, bon, ben, on regarde ça sans ennui peut-être, encore que peut-être un tout petit peu, sans passion non plus, quoi. C'est encore une fois le documentaire reconstitué d'une astronaute qui s'entraîne. Et la dernière image du film, la fusée décolle. Ah ben, on aimerait bien voir le voyage, mais non, le film est fini, c'est un peu dommage.
Il faut aller voir seul sur Mars.
Alors, je corrige Jean-Pierre parce qu'ils ne partent pas sur Mars, ils partent en mission un an pour simuler ce qui va se passer sur Mars en fermant les hublots de la station. Mais moi, j'ai vu ce
film... J'ai pas compris ça, mais d'accord. Bon,
J'ai vu le film, je suis ressorti très déçu, et en fait, il se bonifie avec le temps dans ma tête, mais par contre, l'histoire avec la petite fille, il fallait arrêter, quoi. Enfin, c'est nul, c'est surécrit, c'est du sentimentalisme bête, quoi. On a l'impression d'être... voilà quoi, des scènes Skype qui se multiplient, des scènes au téléphone qui se multiplient. Oui, maman, tu me manques, t'es allée à l'école, t'as fait des maths. Alors voilà.
Pour faire pleurer le spectateur.
Et après, par contre, il y a tous les meilleurs acteurs du world cinéma. Du coup, j'avais l'impression d'être dans un palace ou dans Star City, mais avec Matt Dillon, Lars Eidinger, Eva Green, que des bons acteurs, quoi. L'actrice de Tony Erdmann aussi. Et voilà, on a l'impression d'être dans un palace 4 étoiles d'acteurs qui font, comme le dit souvent Jean-Pierre, leur boulot, quoi. Et après, toute la partie documentaire du film est fabuleuse, mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un documentaire, en fait, sur Star City. Ça aurait été passionnant. Et tout ce qu'ils font, c'est passionnant. Et moi, je m'attendais qu'il y ait plus de scènes où ils parlent de science aussi, parce que j'avais lu un chapeau d'un article en disant que c'était un film de hard science, mais en fait, non, ils ne parlent pas plus de science que ça. C'est très visuel et on voit leur expérience... se multiplier. J'ai été très étonné que le scénario du film ait été coécrit par Jean-Stéphane Bron, qui est un très grand documentariste, et je comprends pas pourquoi ils ont fait une fiction, mais quand même, j'ai été déçu par ce film, et je suis content qu'il existe, et j'incite mes amis scientifiques à aller le voir. Voilà.
C'est Proxima d'Alice Vinocourt que vous pouvez voir au club ou au pâté. J'avais annoncé 11 films, vous n'en aurez que 10 de recommandés ou pas d'ailleurs, puisque nous avons éliminé Knives and Skin, que Jean-Pierre et Adrien ont trouvé sans intérêt, film de Jennifer Reeder et qui est de toute façon sorti de l'affiche. Pour finir, un ou deux coups de cœur d'Adrien et on vous quitte.
Alors, je voudrais vous conseiller le film de Dominique Moll, Seules les bêtes, qui est un super polar qui se passe dans le monde entier. Et vous allez, c'est fabuleux, c'est très bien écrit. Et aussi sur Arte en ce moment, du coup, sur le site internet d'Arte gratuitement, vous pouvez voir les courts-métrages sélectionnés au César. Et je vous conseille vivement de regarder La chanson de Tiphaine Raffier et D'un château ou l'autre, qui se passe pendant l'entre-deux-tours des élections présidentielles. Et c'est des documentaires mi-fiction, c'est des courts-métrages mi-fiction, mi-documentaire qui sont là passionnants, contrairement à Proxima.
Merci Adrien, merci à vous tous d'avoir été présents. Nous allons vous donner rendez-vous l'année prochaine. On vous fera à l'occasion de la rentrée notre top 10 de l'année 2019, année qui n'est pas terminée. Et voilà, on attend jusqu'au dernier moment pour boucler nos top 10, nos top flops et tout ce que vous voulez. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin d'année, de belles projections et rendez-vous donc l'année prochaine pour un nouveau Cinéquanone.
Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma, sinon rien.